VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia avec vous pour cette édition de 19h30 temps universel. On est vendredi 22 décembre 2017 au sommaire. L'armée ougandaise annonce une offensive contre les rebelles ougandais de l'ADF dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta confirme le retour d'exil de l'ex-chef de l'État Amadou Toumani Touré ce dimanche. Le président américain Donald Trump promulgue la loi sur la baisse des impôts votée cette semaine par le Congrès. Et le président palestinien Mahmoud Abbas dit qu'il n'acceptera aucun plan de paix américain dans le conflit israélo-palestinien. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. L'armée ougandaise a lancé ce vendredi des attaques dans l'est de la République démocratique du Congo contre des camps de rebelles ADF Nalu. Aucun bilan n'a été communiqué jusqu'ici. Nathalie Barche.
Ces rebelles prévoyaient de mener des actions hostiles contre l'Ouganda, a déclaré l'armée ougandaise, affirmant se baser sur des informations partagées entre l'Ouganda et la RDC. Dans la nuit du 7 au 8 décembre, 14 casques bleus tanzaniens avaient été tués dans un raid contre leur base de Semuliki, dans le Nord Kivu, près de la frontière ougandaise. L'attaque a été attribuée aux ADF, un groupe musulman rebelle né en 1995 en Ouganda. Ils ont depuis été progressivement repoussés par l'armée ougandaise jusqu'à s'installer en RDC. Les pays de la région des Grands Lacs ont ouvert en février à Kasese en Ouganda un centre de renseignement pour coordonner leurs efforts militaires contre ces rebelles. Les ADF sont l'un des nombreux groupes armés actifs dans les deux Kivus, province de l'Est congolais, frontalier de 4 pays et de 3 Grands Lacs.
Joint par VOA Afrique, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, n'a pas été en mesure de confirmer ses raids et a dit ne pas souhaiter s'exprimer sur la question. Le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali a annoncé ce vendredi le retour de l'ancien chef de l'État Amadou Toumani Touré en exil au Sénégal depuis 2012. C'était à la faveur de la 14e édition de la Journée nationale des communes du Mali. Ibeka confirme donc une rumeur qui circulait à Bamako depuis le début de la semaine. Kassim Traoré.
Confection de t-shirts et banderoles à l'effigie du président ATT par-là, réunion des membres du parti PDS sur le retour d'ATT par-ci. L'information sur le retour de l'ancien président ATT était toujours prise sous forme de rumeurs. C'est ce vendredi 22 décembre 2017, à la faveur de l'ouverture de la 14e édition de la Journée des communes du Mali, que le président Ibeka a été clair. Maintenant que les choses se sont apaisées, j'ai demandé à mon frère cadet ATT de regagner son pays. Quand il partait au Sénégal, il a demandé à la CEDEAO. Macky Sall lui a envoyé l'avion présidentiel. Le Mali ira et c'est l'aéronef présidentiel qui quittera dimanche matin pour le ramener à Bamako. En bon jeune frère, il a souhaité déjeuner avec moi à la maison à Sebenikoro. Nous avons remercié le président Macky Sall pour son hospitalité. Fin de citation. C'est ce dimanche 24 décembre 2017 que l'ancien président malien qui a passé 5 ans, 8 mois à Dakar va signer son retour au Bercail. Dans le programme prévu, ATT se rendra dans sa ville natale à Mopti. Il aura aussi des entretiens avec des notabilités à Bamako avant de retourner à Dakar. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président français est attendu ce vendredi au Niger où il va célébrer Noël avant l'heure avec des centaines de soldats français déployés dans ce pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Après Gao, Ouagadougou et Abidjan, Emmanuel Macron passera quelques heures avec les troupes françaises au Niger avec 500 hommes, des avions de chasse, des appareils de transport et des drones. Cette base est le hub aérien de Barkhane, la plus importante opération militaire extérieure menée actuellement par la France. En Mauritanie, la presse privée est paralysée depuis une dizaine de jours par une pénurie de papier à l'imprimerie nationale. Selon le syndicat de la presse locale, une vingtaine de journaux, dont 7 quotidiens, ont cessé de paraître depuis le 11 décembre. Toutefois, le regroupement de la presse mauritanienne dit constater que les journaux gouvernementaux Chab et Horizon sont régulièrement et normalement édités. Aucune précision n'a été apportée sur l'origine de la pénurie de papier. Le président sud-africain Jacob Zuma a fait appel d'une récente décision de justice qui lui ordonnait de mettre en place une commission judiciaire d'enquête sur les affaires de corruption dans lesquelles il est cité. M. Zuma estime que ce jugement viole le principe de la séparation des pouvoirs. Un rapport publié l'an dernier a mis en lumière l'implication d'une puissante famille d'hommes d'affaires, les Gupta, dans la gestion des affaires de l'État sud-africain. De la nomination de ministres aux pressions pour obtenir des contrats publics. Et puis des juges d'instruction français enquêtent sur une société soupçonnée d'avoir vendu du matériel de surveillance au régime du président égyptien Al-Sisi pour l'aider à traquer ses opposants. Cette information judiciaire pour complicité d'actes de torture et de disparition forcée fait suite à une plainte de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme et de la Ligue des droits de l'homme. La compagnie Amesis est déjà au cœur d'une enquête pour avoir fourni du matériel similaire à la Libye sous le régime de Muammar Kadhafi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump a promulgué la baisse des impôts pour les entreprises et les ménages adoptée par le Congrès cette semaine. La mesure entre en vigueur dès 2018. Selon le président américain, une famille moyenne de 4 gagnant 75 000 $ verra son impôt baisser de plus de 2 000 $. Ils commenceront à le voir en février, a-t-il dit. Toujours aux États-Unis, un juge de New York a rejeté une plainte déposée contre Donald Trump. Une ONG anticorruption a accusé le président américain de violer une loi empêchant les fonctionnaires d'accepter des paiements de gouvernements étrangers à travers son empire immobilier. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas estime que les États-Unis se sont discrédités en reconnaissant Jérusalem comme la capitale d'Israël. Pour lui, pas question d'accepter un plan de paix américain dans le conflit israélo-palestinien. Bagasikoura.
Mahmoud Abbas a dénoncé ce qu'il estime être l'esprit partisan de l'annonce du président Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël. Abbas a fait cette déclaration à Paris à l'issue d'un entretien avec le président français Emmanuel Macron. Avec cette annonce du président Donald Trump sur Jérusalem, les États-Unis se sont disqualifiés eux-mêmes, a-t-il dit. Ils ne sont plus un médiateur honnête dans le processus de paix. Selon le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas a par ailleurs vivement critiqué les menaces financières adressées par les États-Unis aux pays susceptibles de condamner leur position sur Jérusalem à l'ONU. Hier, 128 des 193 pays membres de l'ONU ont voté en faveur d'une résolution condamnant la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Ce vendredi, 2 Palestiniens ont été tués lors des manifestations, portant à 10 le nombre de manifestants tués depuis l'annonce de Trump le 6 décembre.
En Espagne, après leur victoire aux élections régionales, les indépendantistes catalans envisagent une reprise du pouvoir. Toutefois, leurs dirigeants restent en exil ou en prison et à Madrid, on maintient l'intransigeance. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Depuis Bruxelles, où il a pris la fuite pour éviter l'arrestation, le président catalan déchu, Carles Puigdemont, a proposé au chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, de le rencontrer. Monsieur Rajoy a repoussé cette offre, estimant que la personne avec laquelle il devrait discuter, c'est celle qui a remporté les élections régionales, Inés Arrimadas. Parmi les nouveaux députés indépendantistes, 17 sont inculpés, dont 3 en prison et 5 en exil. La victoire des indépendantistes en nombre de sièges, mais pas en voix, est limitée par le bon résultat du plus résolu des partis opposés à l'indépendance, qui est arrivé en tête avec 37 députés. Toutefois, cette formation ne dispose pas d'alliés pour former une coalition de gouvernement. Les socialistes opposés, comme elle, à l'indépendance n'ont que 17 sièges et le PP n'a obtenu que 3 sièges. Si aucun gouvernement n'est formé à Barcelone avant fin mars, De nouvelles élections devront être convoquées dans les 2 mois qui suivront. Mais déjà, Madrid a prévenu que le prochain gouvernement catalan, quel qu'il soit, sera soumis à l'empire de la loi.
La Russie, la Turquie et l'Iran proposent de réunir le régime syrien et les rebelles fin janvier dans la station balnéaire russe de Sotchi pour avancer vers un règlement politique. Une semaine après l'échec de la réunion de Genève, le 8e round de ces négociations organisées au Kazakhstan a permis à la Russie de relancer sa proposition de congrès du dialogue national syrien. La Russie, qui par ailleurs a achevé le retrait partiel de ses troupes déployées depuis 2 ans en Syrie, Moscou a notamment retiré ses unités de forces aériennes, ses médecins militaires, ses démineurs, ses forces spéciales, un bataillon de police militaire ainsi que 36 avions et 4 hélicoptères. En Turquie, le parquet d'Ankara a ouvert une enquête sur les affirmations d'un député qui a déclaré que des assassins ont été mandatés pour tuer des opposants turcs vivant en exil en Europe. D'après l'agence de presse Dogan, le procureur général d'Ankara a invité en tant que témoin le député Garo Pehlan afin qu'il partage les informations qu'il affirme détenir. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Eric Manevekiza.
Le gouvernement burkinabé mobilise 131 milliards de francs CFA pour son plan national de développement économique et social. La ministre de l'économie, Rosine Koulibaly, a signé 5 accords de financement à cet effet. La Banque mondiale, le FIDA, la BAD, la Chine et l'Agence française de développement vont réunir ce montant. Ce plan consiste à développer l'énergie, booster la production du riz, des produits maraîchers, du sésame et du niébé, mettre en œuvre le bitumage de l'axe Gougain-Fadan-Gourma, Piéga frontière du Niger, la mise en place d'une unité de coronographie et de cardiologie interventionnelle au centre hospitalier de Tengandong, et l'appui budgétaire et d'aide au règlement de dette. La Banque mondiale octroie au Togo plus de 58 milliards de francs CFA. Ce nouveau financement est scindé en 2 parties, dont un don et un crédit. Les secteurs prioritaires de l'éducation, de la santé, l'énergie, l'eau, les infrastructures, l'appui à la gestion fiscale et les réformes dans la gouvernance économique sont ciblées. Le FMI, enfin, a donné au Cameroun plus de 65 milliards de francs CFA. C'est un nouveau décaissement d'un montant total de plus de 370 milliards de francs CFA échelonné sur 3 ans, mais soumis à de la validation des revues semestrielles. Ce financement vise à restaurer la viabilité extérieure et budgétaire du Cameroun et jeter les bases d'une croissance durable et inclusive impulsée par le secteur privé.
La page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Le cadeau de Noël en avance pour les amateurs de football, le Classico demain en Espagne.
Oui, l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo, victime d'un coup le week-end dernier, a repris aujourd'hui l'entraînement. Il est à 100% pour le Classico contre le FC Barcelone. Ce sera demain en championnat d'Espagne. Déclaration de l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane. Le quintuple Ballon d'Or a effectué son retour avec ses partenaires ce vendredi sur la pelouse du centre d'entraînement du Real et il a pris part à l'échauffement sans gêne apparente.
En Angleterre, Manchester City caracole toujours en tête.
Seul leader invaincu d'un grand championnat en Europe avec le FC Barcelone, Manchester City accueille la modeste formation de Bournemouth et semble sur des rails pour continuer sa marche en avant. Dans cette première ligue, ce sera samedi lors de la 19e journée. À 11 points derrière, le voisin Manchester United aura un match beaucoup moins facile en se déplaçant chez le champion d'Angleterre 2016, Leicester.
En Italie, c'est le choc Juventus-Turin à AS Rome.
La Serie A qui offre ce samedi un joli cadeau de Noël aux Tifosi en clôture de la 18e journée. Pour ce choc de samedi à Turin, les Romains essaieront d'oublier leur élimination mercredi en Coupe d'Europe au Torino. En crise de résultats, le Milan AC de Gattuso effectuera un déplacement difficile à Bergame pour y affronter l'Atalanta. Quant à la Lazio de Rome, elle recevra Crotone.
Enfin, NBA, championnat de basket nord-américain.
Oui, le leader de la conférence Est, Boston, s'est incliné face à New York, 93-102. Cette défaite permet aux Toronto Raptors de revenir légèrement sur Boston. Grâce à 45 points de DeMar DeRozan, les Raptors ont battu Philadelphie 114-109. Cleveland a dominé Chicago 115-112. Et puis à l'ouest, nouvelle défaite pour San Antonio qui a du mal à l'extérieur. Utah qui bat les Spurs 100-89.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. Au Zimbabwe, un fermier blanc a été le premier à récupérer ses terres après que le nouveau ministre de l'Agriculture a ordonné l'évacuation des occupants illégaux d'exploitation agricole. L'ex-président Robert Mugabe les avait confisqués manu militari pour les distribuer à ses proches et à des fermiers noirs sans équipement et souvent sans formation il y a près de deux décennies. Cette réforme agraire a provoqué un effondrement brutal de la production. Pour savoir comment cette politique du tombeur de Mugabe est perçue au Mozambique, Eric Manirakiza a joint à Harare le directeur du Novasc, John Stewart.
Monsieur Mnangagwa, il a fait quelques discours positifs, qu'il sera le président de toutes les personnes dans le pays, qu'il n'y a personne qui sera au-dessus de la loi. Il a, par exemple, décidé que les terres qui n'ont pas été distribuées correctement par la loi doivent être rendues aux fermiers blancs. Jusqu'ici, je crois qu'il y a un ou deux des fermiers blancs qui sont rentrés sur leur ferme qu'ils avaient antérieurement.
Comment les Zimbabwéens réagissent à la remise des terres aux fermiers blancs?
Monsieur Mnangagwa a souligné que ce qu'il appelle la réforme agraire ne peut pas être arrêté ni renversé, mais il veut que ça soit fait correctement. Il était le ministre de la Justice pendant qu'une nouvelle constitution soit mise en place, et donc Il est conscient du fait que les choses doivent être faites correctement. Il y a la grande question de la dette nationale, quelques 10 milliards de dollars qui est deux fois le budget national.
Il veut donc booster l'économie et il a compris que c'est l'agriculture qui constitue un atout pour pouvoir y arriver. Donc, les fermiers blancs sont importants.
Il y a au moins une partie des fermiers blancs, parce que une grande partie des fermes qui ont été distribuées sont occupées par des fidèles du parti ZANU. À mon avis, ce qu'on a fait depuis l'an 2000 n'était pas une réforme agraire formellement dite, mais une redistribution des terres, et surtout à des fidèles du parti. Et donc, je ne crois pas que M. Mnangagwa va aller très loin dans le sens de rendre beaucoup de fermes aux Blancs. Mais il y aura quelques-uns au moins.
Est-ce que les vétérans de la guerre ne vont pas peut-être voir Mnangagwa comme une menace?
Les vétérans de la guerre sont derrière M. Mnangagwa, en fait, au moins la grande majorité d'entre eux. Mais il y a beaucoup de vétérans de la guerre qui ont reçu des fermes, en fait, au moins les chefs des vétérans de la guerre.
Il a nommé un ministre de l'Agriculture, un militaire. Est-ce que c'est pour pouvoir faire face à des oppositions éventuelles à la remise des terres aux fermiers blancs?
Oui, c'est un ancien combattant, c'est quelqu'un qui était dans la guerre de libération à partir du Mozambique. Quelques-uns de ces militaires ont au moins une réputation positive sur le plan de leur efficacité.
C'était l'activiste John Stewart, joint à Harare.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de l'autodépistage du VIH-SIDA.
L'autotest permet d'effectuer un dépistage par soi-même en prélevant son sang ou sa salive. C'est une méthode plus confidentielle et rapide.
Pour en parler, nous recevons le docteur Hugues Lago, coordonnateur des programmes VIH, tuberculose et hépatite pour le Bureau Afrique subsaharienne de l'OMS. Il nous expliquera les avantages et les limites de ce type de dépistage.
Nous écouterons également le docteur Joseph Larmarange de l'Institut français de recherche pour le développement et le docteur docteur Vincent Bretin d'UNITAID. Ils nous parleront des projets d'autodépistage en cours en Afrique.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Retour sur le vote hier à l'Assemblée générale de l'ONU condamnant la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Une large majorité de pays a voté en faveur de la résolution non contraignante. Et quelles sont les implications de ce vote? Yacouba Ouédraogo a joint le professeur Babacar Sombre, ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte et enseignant à l'université de Dakar.
Il fallait s'y attendre. Donc l'ensemble des pays arabes d'abord votent la résolution. Et la majorité des pays africains, asiatiques, qui ont une majorité musulmane, ne faut pas ne pas voter. Et plus que toutes les grandes puissances qui défendent une solution négociée à deux États, ne pouvaient pas aller dans le sens donc des États-Unis. C'est pas contraignant, mais quand même c'est un échec diplomatique dans la mesure où le président Trump avait menacé les pays qui reçoivent donc de l'aide des États-Unis.
La résolution, elle est non contraignante. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là?
Il faut entendre par là que les États-Unis peuvent transférer leur ambassade à Jérusalem, mais s'ils sont les seuls à le faire, et la majorité des pays restent à Tel Aviv, cela montrerait quand même un isolement diplomatique et politique des États-Unis et que ce serait également considéré comme une violation des résolutions des Nations Unies sur le Moyen-Orient. Mais il faut s'attendre à ce que le président Trump revoie le principe de transfert de l'ambassade des États-Unis donc à Jérusalem.
Cette résolution a été introduite par l'Égypte. Malgré la menace américaine, beaucoup de pays africains ont voté pour la résolution ou se sont abstenus ou n'ont même pas participé au scrutin. Quel est l'apport de ces pays africains-là dans l'adoption de ces textes?
Si aujourd'hui c'est l'Égypte également le pays qui est le mieux aidé par les États-Unis, donc au Moyen-Orient, sur le plan militaire, sur le plan financier, et qui garantit le plan de paix. Le premier pays menacé, ce serait l'Égypte. Mais comme l'Égypte n'a pas véritablement retiré le projet de résolution, et l'ensemble des pays africains considèrent l'Égypte comme un pays africain, et que les conséquences et les répercussions, ce serait effectivement que les pays africains, avec l'ensemble des pays arabes, constituent un poids important pour la politique extérieure des États-Unis.
L'administration américaine a fait savoir qu'elle n'allait pas changer d'avis. La représentante des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a même menacé de revoir la contribution financière de l'Amérique à l'ONU. Qu'est-ce qui va se passer par la suite?
Faire peser le poids des États-Unis sur le plan financier ou de la coopération internationale est improductif à mon avis. Mais il faut que les États-Unis envoient peut-être des délégations au niveau des pays arabes et des pays africains pour essayer d'expliquer sa position et de vouloir relancer par l'échec de cette résolution un plan de paix pour se réhabiliter.
C'était le professeur Babacar Sombre, joint à Dakar.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est la période des fêtes de fin d'année et VOAAfrique vous propose une série de reportages. Direction d'abord la Côte d'Ivoire où les fêtes de Noël, de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An se préparent. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
Nous sommes au grand marché d'Agamé, le plus grand du pays et l'un des plus grands de la sous-région. Il est toujours difficile ici de se frayer un passage. Avec les fêtes de fin d'année, l'affluence est encore plus grande. Agamé, c'est l'endroit idéal pour faire de bonnes affaires, pour acheter des jouets en cette période de fête.
Bon, je suis venu me promener un peu avec les enfants pour payer les jouets. Bon, on a eu ce qu'on voulait. On a pris une voiture, poupée, comme la moto.
Les prix sont abordables et donc je repars satisfait parce que quand je venais, j'étais un peu inquiet. Je me suis dit que bon, peut-être qu'il y aura une flambée des prix. Et quand la fête est proche, les prix augmentent. Bon, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Donc je repars très satisfait.
Je vais aller chercher des petits jouets aux fruits et aux enfants du village. Les prix, bon, je pense que ça va, il y a tous les prix, ça va.
Les clients sont satisfaits, les commerçants aussi.
Les emballages avec les chapeaux de Noël, bon, ça va, on ne se plaint pas. Les gens crient qu'ils n'ont pas l'argent, mais ça va.
Actuellement, c'est les vélos, la période des vélos. Bon, on voit un peu de tout, les voiturettes et un peu de tout. Tout ce qui peut ambiancer les enfants. Il n'y a pas trop d'engouement comme les années passées, mais tout de même, ça va un peu.
Cap sur Yopougon, la plus grande commune du pays, Yopougon-Sikoji. Ici, les coiffeuses ont pignon sur rue. Pour les femmes, il faut se faire plus belle.
C'est la fête. Ça ne touche pas tout le monde.
Vous faites belle, c'est pour qui?
C'est pour mon mari. C'est lui qui m'a donné lundi coiffe.
Donc ça se passe bien?
Non, c'est un peu compliqué. Non, on fait comment?
C'est compliqué quoi?
C'est nos petites économies. Sinon, actuellement, en pays, là, c'est compliqué. Il n'y a pas l'argent. Sinon, ça, c'est nos petites économies. Comment on fait le commerce là? Est-ce qu'on a gardé là pour vivre sa vie? Sinon, il n'y a pas l'argent dans le pays là, c'est compliqué.
Pascaline est coiffeuse. Pour elle, ce n'est pas encore la grande affluence.
Et cette année là, c'est un peu lent. Parce que ça ne marche pas trop comme on le souhaitait. Bon, on attend, on espère que ça va aller. Non, c'est pas trop cher. On n'est pas trop cher. Avec 3 000, 3 500, ça passe. Donc, pas trop cher. Voilà, tout le monde peut venir, se rendre belle. Donc, on attend un peu. Vers le 27, 28, jusqu'à 30, on va voir.
Les restaurants populaires communément appelés maquis et les buvettes se préparent aussi pour faire face à l'affluence des fins d'année.
À notre niveau ici, nous prenons des dispositions pour la fête au niveau de la sécurité. Nous aussi du personnel du barbier, renforcer le personnel, la sécurité, en fait que la clientèle soit à l'aise et puis bon, tout le monde se sent dans la fête ici. Au niveau de nos commandes déjà avant la fête, même 2 jours avant la fête, nous avons des dispositions que nous prenons, en fait que la boisson soit à notre niveau déjà.
Pendant plus d'une décennie, le cœur n'était pas à la fête ici en raison de la crise sociopolitique et militaire. Aujourd'hui, avec la normalité en cours, les Ivoiriens n'entendent pas bouder leur plaisir. Georges Ibrahim Toukara, Abidjan, VOA Afrique.
Voilà, c'est la fin de cette édition avec ce reportage mis en onde. Michel Joseph, console Cédric Franklin, présentation Abdulrahman Dia. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Dans la nuit du 11 septembre 2012, des membres du groupe terroriste Ansar al-Sharia ont pris pour cible 2 complexes du gouvernement américain à Benghazi en Libye. Armés des mitrailleuses, de lance-roquettes et de mortiers, les militants ont attaqué à plusieurs reprises la mission spéciale américaine et une annexe voisine, tuant 4 Américains, y compris l'ambassadeur américain, et blessant 2 autres agents américains ainsi que 3 gardiens libyens. Les 2 complexes ont été complètement détruits. Des primes ont été offertes et d'intenses recherches lancées pour retrouver les responsables de l'attaque. Le 15 juin, le responsable militaire américain a appréhendé le principal suspect de l'opération. Hamed Abu Katala, le responsable d'Ansar al-Sharia à Benghazi, a été inculpé de meurtre et d'autres chefs d'accusation. D'autres suspects de l'attaque courent toujours. Et les États-Unis feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que justice soit rendue. Créé après la chute du dirigeant libyen de longue date, Muammar Kadhafi, Ansar al-Sharia a été impliqué dans plusieurs attaques dans la région, prenant pour cible des civils et assassinant ou tenant d'assassiner des responsables sécuritaires et politiques dans l'est de la Libye. Ses membres continuent de poser une menace aux intérêts américains en Libye et le groupe a été désigné Organisation terroriste internationale. À cet effet, le programme Prime pour la justice offre jusqu'à 10 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation ou la condamnation de tout individu impliqué dans les attaques de Benghazi. Les États-Unis garantissent que tous les indices feront l'objet d'enquêtes et l'identité des informateurs sera tenue confidentielle. Si nécessaire, les États-Unis sont préparés à protéger les informateurs en les réinstallant ailleurs. Si vous disposez de telles informations, contactez le Bureau régional de la sécurité de l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewrdsforgustic.net ou envoyez un email à info@rewardforjustice.net.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.